Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escoute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Ce 9 février, nous sommes très heureux de retrouver notre évêque, Monseigneur Marc Ayé. Bonjour.
Bonjour.
Et nous accueillons également Violaine Ricourt-Dumas. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Monseigneur Marc Ayé, en ce mois de février, l'Europe connaît une vague de froid. On en est à 500 morts qui sont décédés à cause de cette vague de froid. Et le pape Benoît XVI, à l'audience générale du 8 février, a lancé un appel à la générosité.
Oui, ça c'est évident que, comme il le dit aussi dans son message pour le carême, l'attention à l'autre, qui est un peu le thème principal de son message, est tout à fait d'actualité avec cette vague de froid qui fait en effet beaucoup de victimes, surtout en Europe de l'Est sans doute, où le froid sont encore plus persistants, mais c'est une invitation pour nous à ne pas laisser les sans-abri dehors. Je sais qu'il y a beaucoup de logements d'urgence qui s'ouvrent toute la journée, pas seulement la nuit en ce moment, et je fais confiance en effet au Secours catholique qui est tout à fait mobilisé dans notre département, à Pau comme à Bayonne.
Monseigneur Ayé, vous étiez dans un pays où il n'y avait certainement pas de vague de froid, c'était au Liban, je crois, à la rencontre des chrétiens du Moyen-Orient.
Alors, pas de vague de froid, il faisait à peu près la même température qu'ici, hein. C'est un pays méditerranéen, il faisait en effet froid, et nous sommes allés d'ailleurs dans la plaine de la Beka pendant toute une journée, qui est une région d'ailleurs pas très sécurisée, et il a fallu passer par la montagne et nous étions dans la neige. Donc je peux vous dire que nous étions aussi dans le froid.
Alors à quel titre vous rendiez-vous au Liban? Est-ce que c'était à titre personnel ou est-ce que vous étiez en mission commandée entre guillemets?
Alors j'avais été invité, j'ai répondu à une invitation qui était double. D'abord, il y a un certain temps, la princesse de Bourbon-Lobkowitz, qui est la présidente de Malte-Liban, m'avait invité pour rencontrer des centres de soins, des centres d'accueil que l'Ordre de Malte finance et anime dans ce Liban, j'allais dire martyr, hein, vous savez, qui est quand même très traversé par des grandes épreuves de ces dernières décennies. Et puis j'ai été invité aussi par un groupe de laïcs chrétiens maronites, en lien avec le patriarcat maronite, puisque j'étais logé chez le patriarche maronite du Liban, et pour intéresser, à travers un évêque qu'ils avaient invité, l'Église de France à la situation des chrétiens du Liban. Hein, donc c'était pour moi une occasion de reconnaissance un peu d'une situation religieuse et politique difficile. J'ai pu rencontrer ainsi des responsables politiques chrétiens, qui sont d'ailleurs assez divisés politiquement. J'ai rencontré beaucoup de responsables religieux, essentiellement chrétiens, hein, et catholiques même. L'archevêque grec Melkit de Beyrouth, grec catholique de Beyrouth, l'archevêque maronite de Beyrouth, et puis une partie de son clergé, et évidemment le patriarche, l'ancien patriarche émérite, Cardinal Sfer, et puis le nouveau patriarche qui est là depuis un an, qui m'a d'ailleurs donné l'hospitalité à l'oriental, c'est-à-dire avec beaucoup d'accueil, d'ouverture, pendant 3 jours au patriarcat. Et j'ai pu rencontrer aussi un groupe de laïcs, de consacrés, avec lequel nous avons échangé sur la situation des chrétiens en Orient, sur la situation des chrétiens au Liban, et en comparaison aussi sur la situation des chrétiens dans nos pays de vieille chrétienté, hein, dont je pouvais aussi me faire l'écho étant l'évêque d'un diocèse précisément de vieille chrétienté. Et j'ai pu visiter avec la présidente de Malte-Liban, dans la plaine de la Beka, qui est quand même pas mal occupée par ce qu'on appelle le Hezbollah, qui est une milice armée chiite, liée à la Syrie, qui est l'ancien occupant, hein, de ces dernières années du Liban. J'ai pu rencontrer des religieuses, des hommes et des femmes qui animent des centres de soins pour accueillir, eh bien, toutes religions confondues, les habitants qui recourent à ces dispensaires ou à ces lieux d'animation pour personnes âgées ou d'école pour enfants. Voilà, dans la plaine de la Beka, où j'ai visité aussi un petit sanctuaire marial qui se trouve être jumelé avec le sanctuaire de Notre-Dame de Pontmain, où j'avais été précédé d'ailleurs il y a quelques mois par mon confrère Mgr Scherer, évêque de Laval.
Quels sont les espoirs, mais aussi les craintes de ces chrétiens au Moyen-Orient ?
Alors, si vous voulez, d'une manière générale, les chrétiens sont minoritaires au Moyen-Orient, sauf au Liban, où ils sont encore une force assez importante, même si le rapport de force, si je puis dire, au plan de la population a un peu changé depuis quelques années, à cause d'une émigration massive des chrétiens vers l'Occident, des États-Unis ou l'Europe, devant la pression quand même, hein, il faut le dire, de l'islam, et aussi d'Israël, pour ce qui est du Liban, au sud, c'est Israël, et à l'est, c'est la Syrie. Et donc il y a une pression quand même très forte qui a fait du Liban le théâtre d'une guerre un peu interminable à rebondissement depuis un peu plus de 30 ans, depuis 40 ans, maintenant presque. Et donc beaucoup de chrétiens découragés, gagnés par la lassitude, ont pris le chemin de l'exil. Ça veut dire que les chrétiens sont encore une force très importante, bénéficient hélas, pourrait-on dire, mais en même temps bénéficient quand même de la division des musulmans entre chiites, plutôt alliés de la Syrie, soutenus par la Syrie, et sunnites, plutôt soutenus par l'Arabie saoudite, qui investit beaucoup dans la construction d'écoles, de dispensaires, d'hôpitaux réservés aux musulmans et de mosquées, en particulier à côté des églises. C'est assez impressionnant de visiter Beyrouth, au centre-ville de Beyrouth, qui avait été endommagé par les bombardements, reconstruit avec les capitaux de l'Arabie saoudite, et en particulier une immense mosquée qui écrase quasiment la cathédrale maronite Saint-Georges, qui évidemment est là depuis très longtemps. Alors c'est une terre chrétienne, c'est le berceau du christianisme. Tyr et Sidon, on en parle dans l'Évangile, hein, Jésus les a visités, et c'est donc cette région syro-phénicienne. D'ailleurs, il y a l'Évangile de la syro-phénicienne, hein, que nous appelons aussi la cananéenne, qui est en fait une libanaise. Et Jésus a marché sur ses côtes et sur ses routes, et a fait du Liban une terre sainte, comme la Palestine, comme Israël. Donc c'est le berceau du christianisme, et c'est donc très important de soutenir les chrétiens d'Orient en général, et les chrétiens du Liban en particulier. Le bienheureux Jean-Paul II, lors de son premier voyage, avait dit « Le Liban est un message. L'Église y a une mission particulière pour l'Orient et aussi pour l'Occident. » Et le patriarche que j'ai rencontré personnellement, donc avant de quitter le Liban, m'a dit lui-même « Ne nous prenez pas seulement comme des minorités, qui inspire une compassion, les pauvres, il faut les aider. Mais dites-vous bien que les chrétiens d'Orient et les chrétiens du Liban sont la présence de l'Église en Orient, qui est le berceau du christianisme. Si les chrétiens du Liban et les chrétiens d'Orient disparaissent, c'est l'Église qui disparaît, et donc ce sont les valeurs évangéliques qui ne sont plus garanties en Orient et qui risquent aussi de ne plus l'être en Occident. Donc c'est quand même très grave ce qui peut se passer. Et je crois que l'espérance, c'est qu'il y a toujours eu une vraie convivialité, une vraie fraternité au niveau du peuple entre les musulmans et les chrétiens. Mais les intérêts internationaux de leurs voisins, hein, la Syrie, Israël, le monde de l'islam aussi qui s'organise en Orient, eh bien, fait tellement pression que... Les divisions sont exacerbées par la violence ou par la conquête foncière, si je puis dire. Et donc les chrétiens sont quand même très menacés. Donc ils ont besoin vraiment du soutien de notre prière et certainement du soutien de l'Occident.
Quelle perception ont les personnes que vous avez rencontrées là-bas au Liban de ce qui se passe aujourd'hui en Syrie ? Est-ce que vous avez pu en parler avec eux ?
Alors d'une manière générale, ils sont très inquiets. Non seulement de ce qui se passe en Syrie, mais de ce qui s'est passé dans tous les pays arabes, avec ce que les Occidentaux ont appelé le printemps arabe. Eux, ils appellent ça l'hiver des chrétiens. Ça veut dire qu'ils ont conscience que là où des pouvoirs, c'est vrai totalitaires, mais laïcs, garantissaient quand même une certaine liberté aux chrétiens, le printemps arabe a mis en place, est en train de mettre en place des gouvernements islamistes qui n'apporteront pas la démocratie d'une manière générale et qui ne résoudront pas les problèmes qui ont été à l'origine des revendications, en particulier des jeunes, qui ont d'ailleurs disparu de la scène publique et généralement. Et on le voit quand ils commencent à voir que leur révolution a été confisquée, eh bien, ils reviennent manifester et ils sont réprimés aussi durement qu'avant. Et les chrétiens eux-mêmes vont être soumis à la charia. Et donc, ils ne voient pas... leurs sentiments sont contrastés par rapport à la Syrie, parce qu'ils voient bien que le gouvernement des Alaouites, qui sont minoritaires, n'est pas favorable au pays. Et de toute façon, la Syrie est toujours dans un désir hégémonique sur le Liban. Mais en même temps, ils voient bien que les frères musulmans qui poussent de l'autre côté risquent d'établir une... République islamiste et les chrétiens seront encore les grands perdants de l'affaire.
Monseigneur Haye, nous allons maintenant revenir sur quelques événements de la vie de l'Église diocésaine.
Tout d'abord, Monseigneur, il y a eu le début de l'année, vous avez présenté vos vœux aux laïcs et puis aux prêtres du diocèse. Alors, quel message est-ce que vous avez voulu leur faire passer pour cette année 2012 qui commence, il faut le dire, un peu dans la crise, la morosité? Est-ce que vous avez réussi à leur remonter le moral?
Alors, je leur ai dit que c'est vrai que le début de l'année est toujours un moment où, qui est un moment de fête et un moment d'espérance. Parce qu'on pense toujours que la nouvelle année sera meilleure que la précédente. Et donc, d'ailleurs, on le voit dans les discours du président de la République ou des grands ténors de la politique, qui ont forcément, surtout en période électorale, des discours toujours très prometteurs. Et moi, j'ai bien dit que je n'avais aucune promesse électorale à faire et que la seule source de notre espérance en ce début d'année, quelles que soient les crises, eh ben, c'était Jésus-Christ, hein, que nous venions à peine de célébrer dans le mystère de la nativité, hein, Jésus qui reste une bonne nouvelle parce qu'il est précisément le sauveur qui nous est donné. Alors, ben, je pense que pour nous, en début d'année, sur fond de crise, qui en effet afflige de plus en plus l'humanité, hein, d'aujourd'hui, notre société, et puis nous établit en tout cas dans une inquiétude durable par rapport à l'avenir, eh bien, nous avons quand même la certitude que Dieu est avec nous, hein, l'Emmanuel, Dieu avec nous, et donc il ne peut pas abandonner son peuple, et il est soucieux, en effet, des moindres besoins de son peuple. Alors ça nous pousse à une générosité, à une communion, et qui peut être aussi inventive pour résoudre, là où nous le pouvons, avec les moyens qui sont les nôtres, les difficultés que nous rencontrons au quotidien.
En vous adressant aux prêtres, vous avez parlé d'une fatigue de croire. Vous sentez cela et vous voulez les encourager?
Alors j'ai rappelé en effet ce que le Saint-Père Benoît XVI avait dit à la curie romaine lors de son discours pour les vœux traditionnels qu'il leur adresse à la fin de l'année, donc au mois de décembre, où il a parlé de cette fatigue de croire, de cette lassitude de croire qui caractérise nos pays occidentaux dits de vieille chrétienté. Et il a apporté deux remèdes à cette fatigue de croire. La passion joyeuse de l'Afrique pour la foi, avec malgré des épreuves plus insurmontables encore que les nôtres, dans des situations de précarité bien plus difficiles que les nôtres, trouvent quand même, puissent dans leur foi, la joie de croire et d'appartenir à l'Église. Et il a donné comme deuxième remède ces journées mondiales de la jeunesse, qui ont quand même rassemblé 2 millions de jeunes du monde entier à Madrid, autour de lui, et où il a vu, en déclinant à travers plusieurs éléments, eh bien, un vrai remède à cette fatigue de croire d'aujourd'hui, hein, et de vraiment se tourner vers le Christ, qui est source de joie intérieure, qui ne nous pousse pas à fuir nos responsabilités temporelles, au contraire, qui nous donne des forces intérieures dont nous avons besoin pour aborder des crises qui plonge l'humanité d'aujourd'hui, faute d'intériorité souvent, dans un profond désarroi.
Un autre événement heureux dont vous avez parlé dans vos vœux, c'est l'ordination de 2 diacres permanents qui a eu lieu donc le 8 janvier à la cathédrale de l'Escar. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le rôle de ces diacres qui, je crois, ont été, dont le rôle a été réhabilité, en fait, depuis le Concile Vatican II? À quoi servent-ils? Quel est leur rôle par rapport à un prêtre ou par rapport à un laïc?
Alors, vous voyez, c'est en effet le Concile Vatican II qui a rétabli à son degré permanent le diaconat qui a toujours existé dans l'Église et qui existait toujours même quand il n'était plus considéré comme un état permanent. Il est toujours un état transitoire pour devenir prêtre. C'est le premier degré du sacrement de l'ordre, mais qui de fait définit une figure ministérielle dans l'Église depuis les origines. On trouve l'origine dans les Actes des Apôtres.
C'est ce qu'on appelle les ministres ordonnés, c'est ça ?
Alors, ils font partie des ministres ordonnés. Il y a trois degrés dans le sacrement de l'ordre. Il y a le premier degré qui est le diaconat, le second degré qui est le presbytérat, les prêtres donc, et le troisième degré qui est l'épiscopat, les évêques. Donc au degré inférieur de la hiérarchie, comme dit le Concile Vatican II, dans Lumen Gentium, il y a le diaconat. Alors comme son nom l'indique, ça vient du grec qui veut dire serviteur. Le diacre, c'est le serviteur. C'est celui qui est configuré au Christ serviteur, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Ça veut dire qu'il reçoit la grâce de l'Esprit Saint à travers ce premier degré du sacrement de l'ordre, par l'imposition des mains de l'évêque, qui le configure au Christ et qui l'habilite au service principalement de ses frères dans l'organisation de la charité fraternelle au service des plus pauvres, en particulier dans l'Église, mais qui le lie au ministère de l'évêque, qui lui est davantage spécifié par l'annonce de la parole et par la célébration des sacrements dans la liturgie. Le diacre, donc, puise dans la liturgie et son service liturgique spécifique la source de sa charité, et dans cette charité au service des pauvres, il y a aussi l'annonce de l'Évangile, c'est-à-dire l'annonce de la parole. Vous voyez, les trois dimensions de la mission de l'Église, l'annonce de la parole, la célébration des sacrements et le service des hommes, se retrouve aussi dans le diacre, mais il est spécifié par le service des hommes, voyez. Mais ça n'empêche pas de pouvoir lire l'Évangile dans la liturgie, de pouvoir prêcher. Il peut administrer un certain nombre de sacrements, comme le baptême, bien sûr. Il peut distribuer la communion. Il peut présider la prière commune, en particulier au moment des obsèques. La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est célébrer l'Eucharistie et pardonner les péchés. Alors c'était important, je crois, de rétablir cette figure du diacre dans l'Église, parce que l'Église est un corps qui a plusieurs membres, qui n'ont pas tous la même fonction, mais pour que le corps grandisse dans la cohésion et dans sa plénitude, il lui faut tous les membres de ce corps. Et le diacre est un membre à part entière, donc je pense que c'est important que nous ayons dans notre diocèse des diacres, qui ne sont ni des super laïcs, même si c'est parmi des laïcs tout à fait engagés dans leur foi et dans la vie de l'Église et dans la société que nous appelons des diacres, ni un prêtre au rabais. C'est un diacre, c'est une figure tout à fait spécifique qui est spécifiée précisément par le service des hommes, en particulier des plus pauvres, ce qu'on appelle la diaconie.
Monseigneur Hayé, vous étiez à Orthès pour le lancement de la délégation, la nouvelle délégation du Secours catholique. On en a déjà parlé dans le cadre de ces entretiens que nous avons tous les mois avec vous. Juste un mot donc sur ce qui s'est passé à Orthès.
Alors ça a été la célébration avec les bénévoles, au moins des représentants de toutes les équipes secours catholiques de nos deux départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, puisque ce sont ces trois délégations des deux départements qui ont été réunies en une seule, et avec tous les cadres salariés de cette nouvelle délégation. Voilà. Alors on a une présentation un peu de tous ces territoires qui sont quadrillés par le secours catholique. Vous savez que la réforme, qui est une réforme nationale, consiste à limiter le nombre des délégations pour renforcer le nombre des animateurs de terrain, ceux qui aident les équipes de bénévoles à stimuler leur action au service des pauvres là où ils sont situés. Et donc, c'était une présentation finalement de cette nouvelle organisation sachant que vous le savez, le nouveau président de la délégation est à Bayonne, avec un nouveau délégué qui était l'ancien délégué des Landes, et deux vice-présidents qui sont présidents diocésains, respectivement des Pyrénées Atlantiques, donc basés à Pau, et des Landes, basés à Dax.
Une autre journée qui a été la journée de la vie consacrée, à Pau le 28 janvier et à Bayonne le 30 janvier. Alors, c'est important de fêter les consacrés, donc les religieux, les religieuses qui œuvrent aussi dans notre diocèse.
Oui, parce que d'abord dans l'Église, vous savez que le pape Jean-Paul II avait choisi un jour de l'année pour célébrer la vie consacrée. Et c'est le 2 février, le jour de la présentation du Seigneur.
C'est le jour de la Chandeleur.
Voilà, le jour de la Chandeleur, qui est normalement le jour de la vie consacrée. Alors,
ce jour a été choisi ?
Pourquoi le jour de la présentation ? Parce que c'est le jour où Jésus se consacre complètement à sa mission, même s'il est pape, c'est par l'intermédiaire évidemment de ce rite de la présentation accompli par ses parents, Marie et Joseph, où il, d'une certaine manière, il s'offre tout entier à son Père, pour le salut du monde. Donc il consacre toute sa vie. Voyez, on compare souvent la présentation à l'offertoire de la messe. La présentation du Seigneur au temple est au mystère de la passion et de la mort de Jésus sur la croix, ce que l'offertoire est à la consécration de la messe dans l'Eucharistie. Voyez, et donc on célèbre ce jour-là, en effet, cette consécration totale de soi-même au Seigneur pour la participation à sa mission de salut à travers tous les charismes de la vie consacrée qui sont multiformes dans notre diocèse comme partout dans l'Église. Donc on anticipe pour pouvoir avoir une journée complète au samedi ou au lundi qui précède ou qui suivent selon les années et ça permet aux consacrés de se rassembler et puis de célébrer leur charisme de vie consacrée et leur permettre d'approfondir leur charisme au service de l'Église et puis peut-être aussi de promouvoir la vie consacrée dans l'Église.
Alors Monseigneur Hayet, cette semaine les prêtres du diocèse ont reçu une formation à laquelle vous avez assisté je crois avec Monseigneur Tony Anatrella qui est psychanalyste. Cette formation était sur la théorie du genre. Alors cette théorie a fait pas mal parler d'elle l'année dernière puisqu'il est prévu qu'elle apparaisse dans les livres scolaires. Alors pour vous cette théorie présente un réel danger pour la société, pourquoi exactement?
Alors nous avions invité en effet Monseigneur Tony Anatrella qui, comme vous l'avez dit, est psychanalyste, spécialiste en psychiatrie sociale, et à cause de son expérience de praticien, car il continue de consulter actuellement à Paris, tout en étant prêtre de l'archidiocèse de Paris, il est consulteur au Conseil pontifical pour la famille, au Conseil pontifical pour la santé, consulté par de nombreux organismes ecclésiaux, romains ou nationaux, et aussi de la société civile. Il a été appelé à intervenir dans beaucoup de... Il a été consulté aussi et auditionné par des parlementaires, par des organismes internationaux, etc. Donc il a, évidemment par sa formation, une connaissance approfondie de tous les mécanismes de la psychologie humaine, avec toutes leurs implications sociales et anthropologiques. Et il a en particulier beaucoup étudié la théorie du gender, dont il nous a expliqué dans ces deux journées de formation permanente, au Béarn comme à Bayonne, dont il nous a expliqué les origines qui remontent très loin dans l'histoire de la pensée et qui se sont constituées de manière plus récente dans les milieux des psychiatres cliniciens et des sociologues et des philosophes anglo-saxons aux États-Unis et puis en France, pour aboutir à une théorie du gender qui consiste à dire que l'identité sexuelle n'est pas d'abord affaire de sexe biologique, comme on le dit dans cette théorie, mais d'orientation sexuelle, en disant que le genre masculin et le genre féminin est plutôt une assignation sociale et culturelle qu'un donné biologique de départ, dont il faut au contraire s'émanciper. Et que le vrai sexe, c'est le sexe psychologique, qui est l'orientation sexuelle que l'on se donne et qu'il nous permet de construire une identité. Alors il faut savoir que cette conception qui part d'un déni du donné objectif qui nous établit comme homme et comme femme, comme il l'a rappelé, ce sont les données de la science psychologique et de la science biologique et génétique. Il n'y a pas d'autre identité sexuelle que l'identité de l'homme et l'identité de la femme. Mais cette théorie du gender, finalement, a été utilisée d'un point de vue philosophique, donc idéologique, et finalement aujourd'hui avec des implications judiciaires et d'organisations sociales qui sont diffusées par les organisations internationales en particulier, l'ONU, l'OMS, la Commission européenne des droits de l'homme, eh bien, propose un modèle de société qui, au nom de l'égalité des sexes et d'égalité de tous devant la loi, eh bien, efface toutes les différenciations inscrites dans la nature biologique au profit des orientations sexuelles qui doivent toutes pouvoir s'exprimer à égalité dans la société, au nom donc de la revendication de l'individu à se construire lui-même au mépris de toute norme et de toute loi qui lui serait imposée par la société et même par la nature, voyez. Et c'est ce qui donne aujourd'hui, bien que, au nom de cette non-discrimination, de cette égalité, on mettra à égalité l'hétérosexualité, l'homosexualité, le transsexualisme, le transvestisme, etc., etc. Voyez. Et donc c'est beaucoup plus grave que ça n'y paraît, parce que ça finit par introduire dans la société, le comportement social, organiser légalement, eh bien des confusions de repères qui sont au mépris de toute structuration de la personnalité humaine, avec tous les comportements que l'on peut voir non seulement banalisés, mais reconnus dans la société.
Donc c'est pas seulement en tant que chrétien, parce que c'est vrai que pour les chrétiens, Dieu a créé l'homme et la femme. Mais ce n'est pas seulement en tant que chrétien qu'on peut s'opposer à cette théorie. C'est vraiment
tout à fait,
un danger.
Comme il l'a dit, la théorie du gender a deux ennemis, la psychanalyse et l'Église. Parce que la psychanalyse, par ses expérimentations sur la psychologie des profondeurs, confirme cette anthropologie que l'Église enseigne à partir de la révélation judéo-chrétienne et qui vient confirmer eh bien, une analyse philosophique réaliste de ce qu'est l'homme en lui-même. Hein, Dieu a créé l'homme, homme et femme. Il n'y a pas de possibilité, comme il le disait, il n'y a que l'homme et la femme qui peuvent faire une alliance d'amour qui soit utile et qui ait un sens pour la société. Voyez, les autres commandements sexuels qui ont toujours existé, qui existeront toujours, et dont on doit respecter les personnes qui les pratiquent, eh bien, n'ont pas à être organisés par la société, car elles n'ont pas de sens pour la société. Voyez, il y a une sorte d'effacement de la symbolique qui est porteuse de liens sociaux, de construction sociale, et qui est inscrite dans l'identité sexuelle de l'homme et de la femme.
Monseigneur Marcaillé, nous changeons complètement de sujet. Vous prenez, comme l'an dernier, comme l'année avant, votre bâton de pèlerin pour visiter les paroisses du diocèse. Alors, quelles sont les paroisses que vous avez visitées, que vous allez visiter cette année? Vous en avez déjà visité une.
Alors, j'ai visité la paroisse de Saint-Jacques du pays de Mix, Saint-Palais, Pays basque intérieur, pendant 5 jours, donc au mois de janvier. Et ça a été, en effet, comme toujours, hein, une très grande joie, la joie de la rencontre. D'habiter au presbytère, de partager la vie des prêtres pendant 5 jours, d'aller à la rencontre des chrétiens engagés dans les différents domaines de la pastorale, et puis aussi de toute cette activité humaine qui fait le territoire d'une paroisse. Et en l'occurrence, j'ai pu constater que Saint-Palais avait une grande vitalité ecclésiale, parce qu'il y a quand même beaucoup de chrétiens engagés. Quand vous pensez qu'il y a 250 enfants au catéchisme, pour une paroisse de 4600 habitants, c'est quand même assez impressionnant. Hein. Je veux dire, ça prouve qu'il y a, oui, puis il y a des catéchistes, qui en plus, les générations se renouvellent, il y a même des jeunes catéchistes. Donc tout ça est très prometteur pour l'avenir. Il y a des établissements scolaires de lancement catholique, hein, le collège Etché Coppard, le lycée Ricard, l'école Etché Coppard, tout ça que j'ai visité est un vivier aussi de jeunesse. Et puis, il y a aussi une vitalité professionnelle très impressionnante. Beaucoup d'entreprises de bâtiments, il y a la grande coopérative Lourberry, une grande activité qui fait qu'on est dans une région qui donne du travail à ses habitants et où les gens, manifestement, les agriculteurs aussi, vivent du produit de leur travail. Et tous les services sont présents à Saint-Palais, qui est d'ailleurs une région, la Micoussée, très ouverte, à la fois sur la Basse-Navarre, sur la Soule, mais aussi sur le Béarn. Hein, on vient à la clinique Socori, aussi bien de Saint-Jean-Pied-de-Port que de Sauveterre de Béarn.
Alors du 15 au 19 février, vous allez visiter la paroisse Saint-Pierre-de-l'Océan, Saint-Jean-de-Luz. Et vous savez qu'en Pays Basque, en tout cas, on dit que c'est la paroisse la plus riche du Pays Basque. Alors il y en a qui s'inquiètent, est-ce que vous allez là-bas pour annoncer des nouvelles nominations sur Saint-Jean-de-Luz?
Ah, sûrement pas, non. Je ne vais jamais faire une visite pastorale pour annoncer de nouvelles nominations. Je crois que là, il y a une très bonne équipe en plus, hein, et que je vais d'ailleurs mieux découvrir. Non, et là, c'est une grande paroisse, parce que ce sont trois anciennes paroisses vivantes. Hein, c'est Saint-Jean-de-Luz, d'abord, qui est en effet réputée pour être la paroisse quasiment la plus pratiquante du diocèse. Hein, l'église Saint-Jean-Baptiste, je crois, est assez souvent remplie, pas seulement par les estivants hein, et les résidents secondaires, mais aussi par les habitants de Saint-Jean-de-Luz, mais aussi Cibourg et aussi Urugne. Alors je pense que là, je vais avoir une visite marathon qui m'a été déjà très bien présentée. Je crois qu'elle est particulièrement bien préparée. Et donc, c'est avec grande joie que je m'apprête à arpenter cette partie de la côte basque.
Voilà, et ensuite, donc au premier semestre, en tout cas, vous irez aussi à Navarinx, à Sauveterre, à Saint-Pierre-des-Rubes, à Thèse et à Baïgorry. C'est pas mal pour un premier semestre 2012.
Ah oui, je maintiens mon calendrier d'une visite pastorale par mois. On tient l'agenda.
Monseigneur, une petite question concernant une nouvelle fonction que vous avez et qui nous avons besoin d'éclairage. Depuis le 10 janvier, le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France vous a désigné membre de la commission épiscopale pour les ministres ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale. Alors, pouvez-vous nous dire en quelques mots en quoi consiste le fait d'être membre de cette commission?
Alors, il est de bon ton que les évêques participent à une des commissions épiscopales qui sont censés aider les évêques dans leur ministère quotidien, hein, dans leur diocèse. Et jusqu'à présent, j'avais privilégié la découverte de mon diocèse, donc je ne m'étais pas fait oublier, mais enfin, je m'étais...
Vous étiez très occupé.
Je ne m'étais pas engagé encore dans une commission. Mais il se trouve que nous avons tous reçu, pour la dernière assemblée plénière de novembre, un formulaire à remplir, où il fallait donner par ordre de préférence... notre choix pour une commission, pour participer à une commission épiscopale. Alors j'ai mis trois choix, dont le premier était celui de la commission épiscopale des ministres ordonnés et des laïcs en mission ecclésiale, et qui est présidée par Monsieur Jean-Luc Bouilleret, évêque d'Amiens, que nous venons d'ailleurs d'élire au cours de cette assemblée plénière. Et donc le conseil permanent qui se réserve ensuite de nous répartir en fonction de nos choix, eh bien, a honoré mon premier choix. Alors j'en étais très heureux. Et donc ça veut dire que je participe à une commission qui est présidée par Monseigneur donc Bouilleret et qui est composée de quatre autres évêques. Monseigneur Blondel, évêque de Viviers. Monseigneur Scherrer, évêque de Laval. Monseigneur Turini, évêque de Cahors. Et moi-même.
Donc ça veut dire qu'on va moins vous voir dans le diocèse?
Non, pas du tout. Non, on limite au plus possible nos rencontres. On peut aussi travailler par Internet. Et la prochaine rencontre aura lieu au cours de la visite de l'Assemblée plénière d'avril à Lourdes. Donc je ne me fais pas trop de soucis.
Le pape Benoît XVI invite toutes les familles du monde entier à participer à la 7e rencontre internationale des familles à Milan 2012. Je crois qu'il y a un relais efficace au niveau du diocèse pour inviter les familles à aller à Milan.
Oui, c'est ça. Vous savez que Jean-Paul II avait institué tous les trois ans ces journées mondiales de la famille, un peu sur le style des JMJ. Ce sont un peu au fond les JMJ de la famille, hein, qui commencent par un colloque ou un congrès un peu théologico-pastoral, sur le thème qui a été choisi pour ce congrès, et qui se termine par une grande veillée du samedi soir, comme les JMJ, et une grande messe le dimanche, présidée par le Saint-Père. Donc je crois que c'est important que nous nous réunissions en effet autour de la famille qui est tellement menacée, on a parlé de la théorie du gender, qui semble imposer des pseudo-familles à la société, et donc il faut rappeler, pas seulement, comme on le dit dans les médias, la famille traditionnelle de manière un peu péjorative, mais la seule famille humaine qui se respecte, qui est fondée sur l'union stable d'un homme et d'une femme. Et donc j'ai voulu cette année que la pastorale familiale, qui est en train de se restructurer au niveau de notre diocèse, puisse constituer une délégation officielle que je présiderai, que je guiderai avec l'abbé Lionel Landard, vicaire général qui suit la pastorale familiale dans le diocèse, à Milan pour ces journées. Et puis on invite largement toutes les familles qui le peuvent à aller participer à cette grande fête des familles, au moins pour le week-end, avec des moyens d'hébergement dans les familles ou dans des écoles qui seront à moindre frais.
Un autre événement dans notre diocèse, du 20 au 23 février, les séminaristes vont partir en pèlerinage à Lisieux. Alors donnez-nous des nouvelles de nos séminaristes, comment vont-ils, et puis est-ce que ce pèlerinage va être une étape importante pour eux?
Alors nos séminaristes vont bien. Ils sont en pleine, en cette fin du mois de, enfin ce début du mois de février, ils sont en plein examen. Hein, ce sont les examens semestriels, donc ils sont en train de plancher sur les questions que leur pose leur professeur au bout de 6 mois d'enseignement. Et donc après, il y a un temps de repos toujours. Et on a initié cela l'an dernier. Il y a un pèlerinage entre eux, avec les pères du conseil qui le peuvent, et l'évêque, qui les avait accompagnés l'an dernier à Rome, toute la durée du pèlerinage, les rejoindra à Lisieux pour passer 3 jours avec eux. Je crois que c'est un moment important que pour se retrouver entre eux, et pour faire aussi une expérience à la fois de détente, un peu dépaysante, et puis une expérience de cohésion et une expérience spirituelle forte. Donc ils vont d'abord aller à Pontmain, justement, au Mont-Saint-Michel, puis à Lisieux, où je les rejoindrai, d'où nous reviendrons à Solèmes, l'abbaye de Solèmes, pour le mercredi des cendres. Et enfin, on redescendra le jeudi 23 février, sur Bayonne, en passant par Saint-Laurent-sur-Sèvre.
Dans l'élan des JMJ de Madrid, la pastorale des jeunes propose 2 rendez-vous aux collégiens et puis à tous les jeunes. C'est des rendez-vous qui vous tiennent à cœur.
Ah, très important, oui, et puis qui tiennent à cœur à la pastorale diocésaine des jeunes qui est mobilisée déjà depuis plusieurs mois et qui affine toujours plus le programme. Donc pour les 4e, 3e, ça aura lieu à
Salis de Béarn.
Et pour les lycéens et étudiants, ce sera à Baïgorry. Voilà. Et donc c'est des grands moments auxquels je tiens à participer.
Donc Salis de Béarn pour les 4e, 3e le 10 mars et le 31 mars pour tous les autres jeunes à Saint-Étienne de Baïgorry. Alors nous allons aborder maintenant d'autres sujets qui n'ont pas forcément de lien avec la vie de l'église diocésaine, mais auxquels vous avez participé.
Tout d'abord la marche pour la vie, donc c'était le 22 janvier à Paris. Pour vous, c'est important de soutenir la vie. C'est vrai que vous en parlez beaucoup. C'est un de vos grands sujets. Vous êtes inquiet des propositions de légalisation de l'euthanasie qui naissent à l'approche de l'échéance électorale. C'est vrai que ce sont les dernières propositions qu'on a entendues.
Très inquiet. Hein. On sait bien que par rapport à l'inviolabilité de la vie humaine depuis son commencement jusqu'à son terme naturel, un certain nombre de verrous ont déjà sauté depuis bien longtemps, par les lois sur la contraception, les lois sur l'avortement, qui devient d'ailleurs de plus en plus un moyen contraceptif aujourd'hui, comme on le sait. Et aujourd'hui, cette loi sur l'euthanasie qui n'a pas sa raison d'être, comme vous le savez, en 2005, il y a une loi Leonetti sur les soins palliatifs, qui est une loi extrêmement équilibrée, qui a été tout à fait bien conçu, non seulement par des médecins, mais aussi par des juristes et des parlementaires, et qui a l'heure d'exister pour, d'une certaine manière, lutter contre l'acharnement thérapeutique, contre lequel certains lobbies veulent lutter en légalisant l'euthanasie, c'est-à-dire l'atteinte directe à la vie d'une personne. et en promouvant les soins palliatifs. Hein, et je crois qu'on est encore très en retard dans la mise en œuvre de ce programme que la loi Leonetti garantit. Et c'est quand même très grave. Et ça vous montre un peu le dysfonctionnement de notre société d'aujourd'hui, où il n'y a plus de loi morale stable, il n'y a plus de loi naturelle, on les remplace par des normes, et des normes qui sont tellement contingentes qu'elles peuvent changer, pour des raisons souvent démagogiques, non plus sous la poussée de la réflexion, ni philosophique, anthropologique ou politique, mais sous la pression des lobbies, voyez, et c'est ça qui est très grave. Ça veut dire que vous trouvez aujourd'hui dans des programmes présentés par certains candidats qui vont briguer nos suffrages aux élections présidentielles, eh bien, d'une manière tout à fait banale, au mépris de tout ce qui s'est passé pendant des années, eh bien, ce genre de propositions, ce qui veut dire que ce sont les lobbies qui mènent les politiques. Et c'est très grave, vous voyez, c'est un déni de démocratie.
Et ces lobbies connaissent la loi Leonetti ou bien vous pensez que c'est justement que cette loi est trop peu connue?
Ils connaissent parfaitement la loi Leonetti, mais ils continuent de faire pression pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire la légalisation du meurtre, on peut dire, des personnes inutiles, inefficace au nom d'une compassion fallacieuse pour la souffrance du malade. Alors qu'on sait aujourd'hui que l'on peut, et par les soins palliatifs précisément, limiter la souffrance et la supprimer à 99% des cas.
Un événement auquel nous allons tous participer si nous sommes de bons citoyens, ce sont les élections. En octobre dernier, les évêques de France ont publié un texte qui s'intitule « Élection, un vote pour quelle société ?» Donc on en parlait, ce sont des enjeux importants pour la vie de notre pays. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu l'esprit de ce texte et nous dire les points d'attention que les évêques ont voulu indiquer aux chrétiens et aux catholiques?
Alors c'est un texte tout à fait équilibré, qui propose bien en amont des campagnes électorales, de manière à ne pas intervenir dans la campagne elle-même. Nous n'avons pas donné de consigne de vote, nous n'avons pas à signaler tel ou tel candidat. Nous avons à proposer aux citoyens de manière générale, qui veulent bien entendre la voix de l'Église, qui peut s'exprimer au même titre que beaucoup d'autres dans une société laïque, qui précisément permet à tous de s'exprimer et de faire entendre leur voix, mais en particulier aux fidèles de l'Église catholique, de leur proposer des critères de discernement. Et les trois premiers critères de discernement qui sont proposés dans ce texte sont ceux que le pape Benoît XVI appelle les principes non négociables, hein, qui concernent évidemment la dignité de la vie humaine, depuis sa conception jusqu'à sa fin naturelle, le mariage entre un homme et une femme comme socle stable d'une société, et le choix des parents, le choix de l'école de leurs enfants par les parents. Donc c'est quand même, ce sont des principes très importants qui concernent la vie, le mariage et la famille et l'éducation. Ensuite, il y a toutes les questions de l'accueil de l'étranger, il y a toutes les questions de la justice sociale qui sont aussi évidemment listées, et beaucoup d'autres, qui sont la liberté religieuse, etc. Donc je crois que ça donne des critères de discernement qui nous permettent d'évaluer les programmes électoraux qui nous sont présentés actuellement, ou en tout cas dans quelques semaines davantage, par les candidats déclarés aux élections présidentielles.
Mais beaucoup de catholiques sont désemparés, puisque justement, si on lit tous ces critères, il n'y a pas de candidat pour l'instant qui répondent à ces critères. Alors, est-ce qu'on vote en tant que chrétien ou en tant que citoyen? Est-ce qu'on peut être les deux en même temps?
Alors, il faut faire très attention que a été promue une conception un peu schizoïde dans les milieux politiques, souvent héritiers de la démocratie chrétienne d'ailleurs, même si ça ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui, dans une tendance un peu libérale, qui distingue entre une éthique de la conviction et une éthique de la responsabilité, qui fait que certains hommes politiques justifient leur la mise entre parenthèses de leur conviction personnelle, donc de leur conscience, dans l'exercice de leurs responsabilités à cause de l'intérêt général qui serait défini par un consensus démocratique. On ne peut pas se couper en deux. Hein, et je crois qu'un chrétien ne peut pas... le citoyen chrétien, s'il est un citoyen, il ne peut pas se départir de sa foi chrétienne qui informe toute sa vie et qui n'est pas seulement une case de son existence qui pourrait être séparée de ses responsabilités d'homme et de citoyen dans la société. Et donc, oui, c'est vrai que nous sommes devant une difficulté, je pense, face aux programmes qui nous sont présentés et à l'intérêt de notre vote pour la société, pour l'avenir de la société. Et il y a plusieurs solutions, hein. Il y a le premier tour et le deuxième tour déjà. Bon. Et puis ensuite, vous savez, il y a deux manières de réagir. Il y a ceux qui vont dire, moi je ne vais pas voter pour quelqu'un mais contre. Et je vais voter pour ce que j'appellerais le moindre mal par rapport à mes convictions. Et puis il y en a d'autres qui vont dire, moi je vais protester, je vais voter. Je sais malheureusement que mon vote blanc ou mon vote sera nul et ne sera pas comptabilisé, mais je vais manifester comme Frigide Bargeot.
Voilà, qui disait qu'il fallait voter Jésus.
Elle va voter Jésus 2012 et elle invite les gens. Alors ça peut paraître un peu fou, mais peut-être que, je ne dis pas que c'est ce que je vais faire d'ailleurs, hein, je suis en train de, je discute là, hein, mais ça peut paraître un peu fou, mais ça mérite d'être réfléchi, vous voyez, dans une stratégie du bien commun.
Le temps passe très vite, Mgr Haillé. Alors, en quelques mots, nous allons évoquer le temps du carême qui débute le 22 février avec le mercredi des cendres. Le 26 février, vous appellerez les catéchumènes. C'est l'appel décisif des catéchumènes, donc à Sainte-Thérèse de Pau. En mot, on est tous un peu finalement catéchumènes au début du carême.
Et oui, on redécouvre le catéchuménat à travers ce carême qui est le grand temps, en effet, de ces... pour ces adultes qui se préparent ultimement à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne au cours de la vigile pascale, à travers des scrutins, une catéchèse adaptée, des rites préparatoires au baptême, que nous avons toujours avantage dans ce temps de conversion baptismale, qui est le temps du carême. Nous qui allons aussi renouveler nos promesses baptismales au cours de la vigile pascale, eh bien nous avons toujours intérêt à réinvestir ces grandes étapes du catéchuménat pour nous-mêmes. Et donc, d'une certaine manière, les catéchumènes nous guident dans ce travail de conversion et de préparation à Pâques.
Un autre grand moment du carême cette année, c'est une enquête que vous avez lancée l'an dernier sur le kérigme, donc le cœur de la foi, finalement. Les mouvements, les associations, les paroisses sont invitées à répondre à ce questionnaire. Certains sont gênés par l'idée de proclamer une idée, finalement, parce qu'on dit proclamer le kérigme. C'est-à-dire que ces personnes préfèrent témoigner de leur vie dans le Christ. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre proclamer une idée et témoigner
Alors, c'est là où, vous voyez, c'est là où il ne faut pas se tromper. Hein. Kérigme, ça veut dire proclamation. Mais ce n'est pas une idée que nous proclamons, c'est une personne. Hein. Il faut bien comprendre que, comme le disait le pape Benoît XVI, la vérité n'est pas une idée. Elle n'est pas un slogan, elle n'est pas une idéologie, elle est une personne, hein, Jésus-Christ qui est Dieu parmi nous. Ce que l'on proclame dans l'annonce du kérigme, c'est le mystère du Christ mort et ressuscité pour nous. Le grand cri des apôtres qui disent « Jésus est le Seigneur », ça veut dire « Jésus, pour moi, dans ma vie, il est vainqueur du péché et de la mort ». Vous voyez, ça veut dire que c'est beaucoup autre chose, donc c'est un témoignage. On ne peut pas dissocier l'annonce du kérigme, qui est le cœur de la foi, c'est-à-dire Jésus-Christ mort et ressuscité, qui, sauf preuve du contraire, est un vivant pour nous, et n'est pas seulement une idée, n'est-ce pas, que nous aurions apprise par cœur. Et c'est un vivant parce qu'il nous a transformés. Nous l'avons rencontré et il nous a transformés. Donc on ne peut pas dissocier l'annonce de ce kérigme du témoignage de notre vie, parce que c'est précisément par le témoignage de notre vie que nous proclamons le kérigme. Et ensuite comme le pape Paul VI l'explique très bien dans son exhortation apostolique Evangelium Nuntiandi, la bonne nouvelle proclamée par le témoignage de vie, qui est toujours premier, devra tôt ou tard être proclamée par la parole de vie. Voilà. C'est dans ce sens-là que j'invite tous les groupes ecclésiaux, quels qu'ils soient, et même les personnes de notre diocèse, à répondre à ce questionnaire, à le partager entre eux, c'est pour ça qu'il vaut mieux le faire en groupe, parce qu'ils vont pouvoir donner aussi leur expérience de cette annonce du kérigme ou de ce témoignage de ce que le kérigme a fait en eux. Vous voyez, le mystère du Christ mort et ressuscité. Et j'ai déjà un certain nombre de réponses qui me sont venues, à titre individuel, à titre de groupe, de mouvement ou de groupe informel, qui ont tout à fait saisi les choses. Et de fait, il y a dedans des gens qui vont me dire, les moyens d'annoncer le kérigme pour moi, c'est le témoignage de ma vie. Pour d'autres, c'est de parler à mes petits-enfants. Pour d'autres, c'est d'aller faire du porte-à-porte. Pour d'autres, c'est de participer à telle activité, telle association. Vous voyez, il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. Et c'est ça qui est magnifique.
Et ces réponses, elles serviront à mettre en place l'observatoire
elles vont
de la mission,
c'est en ça effet, parce qu'elles vont nous permettre, elles vont être comme un baromètre de la conscience missionnaire de notre diocèse. Et à partir de là, on pourra constituer un observatoire de la mission qui aura pour objectif de proposer dans les différentes communautés de notre diocèse une pastorale d'évangélisation qui soit adaptée non seulement à ce qu'est la mission de l'Église, mais aussi aux attentes de notre monde d'aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a une date limite pour ceux qui n'ont pas répondu ?
Alors, disons que c'est au cours de cette année. J'espère que avant le mois de juillet, j'aurai suffisamment de réponses pour pouvoir clore cette enquête.
Alors, une autre démarche qui est en cours, mais là, au niveau de l'Église de France, c'est la démarche Diaconia 2013. On n'aura pas le temps ce soir de rentrer dans le détail, mais vous invitez bien sûr les paroisses à se saisir de cette question du service dans l'Église.
Oui, je crois que c'est d'ailleurs bien parti, l'abbé Joachim Jauregui, qui est le responsable diocésain de la diaconie, a déjà pris son bâton de pèlerin, a rencontré beaucoup de doyennés pour leur indiquer le sens de cette démarche. Mais il faut dire que sur le site Diaconia 2013, nous trouvons aussi beaucoup d'éléments qui permettent à une paroisse d'entrer facilement dans la démarche, à travers en particulier la rédaction de ces deux livres blancs, des fragilités et des merveilles.
Un grand moment qui se prépare, c'est aussi la journée Famille en Fête, qui aura lieu donc à la Pentecôte, comme chaque année à Anglette. Est-ce qu'il y a un thème spécifique cette année ?
Alors, comme nous avons essayé aussi, à l'occasion de ce carême, d'insister sur le sacrement de la pénitence et la réconciliation, dans la vie de l'Église, nous avons ciblé pour la fête de Famille en Fête le thème de la réconciliation au sein de la famille. Et je crois que c'est un thème qui nous rejoint vraiment, dans une période de grande division, de conflits, de déchirements, parfois au sein des familles en particulier, mais au sein de la société, parfois même au sein de l'Église. Ce thème de la réconciliation est vraiment au cœur.
Le samedi 25 février, vous inaugurerez un cycle de conférences de carême à la cathédrale de Bayonne. Je crois que c'est le samedi à 16h30. Quel est le thème de ces conférences ?
Alors le thème, c'est la préparation de l'année de la foi que le pape Benoît XVI a annoncé, qui s'ouvrira avec le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, le 11 octobre 2012. Et donc moi, je ferai justement une conférence introductrice sur le sens de cette année de la foi pour célébrer le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile.
L'événement de ce carême à Bayonne, c'est la fête de Saint-Léon, et vous avez invité une personnalité romaine.
Alors nous invitons toujours un évêque extérieur à présider cette fête de la Saint-Léon. Et cette année, nous avons invité le cardinal Robert Sarra, qui est une belle figure d'évêque africain, qui a été nommé à 32 ans archevêque de Conakry, en Guinée, à la suite de l'évêque martyr, on peut dire, Monsieur Chindimbo, qui vient de mourir d'ailleurs, et qui, après plusieurs années comme archevêque de Conakry, a été nommé par le pape Jean-Paul II archevêque secrétaire de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, en charge de l'Église dans les pays de mission, particulièrement en Afrique et en Asie, et qui vient d'être nommé depuis un an le président du Conseil pontifical Coronum, qui s'occupe d'une certaine manière de la charité de l'Église universelle. Et donc qui va venir animer une retraite pour les prêtres, qui d'ailleurs ont répondu assez massivement à cette invitation, qui aura lieu à Belloc pendant toute la semaine, et qui introduira cette retraite par la célébration de la fête de notre patron diocésain, qui est Saint-Léon.
Voilà, donc le dimanche 4 mars, à la cathédrale de Bayonne, la messe matin à 10h30, à 15h, je crois qu'il y a une audition de la maîtrise, qui sera suivie des vêpres l'après-midi. Monseigneur Marcaillier, en conclusion, pour ce carême, qu'est-ce que vous conseilleriez aux diocésains pour bien vivre ce carême 2012?
Alors, je reprendrai le thème du message du Saint-Père, Benoît XVI, qui parle de l'attention à l'autre et de l'amour des uns pour les autres. Et en mettant vraiment au cœur de cette attention à l'autre, non seulement notre entrée décisive dans l'expérience de diaconat 2013, qui signifie pas seulement de revisiter la crédibilité de nos organismes caritatifs, mais qui consiste à introduire dans notre communauté chrétienne tous ceux qui pourraient être les blessés de la vie, ceux qui sont au banc de la société ou qui se sentent exclus de l'Église. Et ensuite, mettre au cœur de cette démarche de l'attention aux autres et de l'amour mutuel, eh bien, la réconciliation. Hein. Et la réconciliation en profondeur avec soi-même, avec le Seigneur, sans laquelle il n'y a pas de vraie réconciliation avec les autres.
Merci beaucoup, Monseigneur Marcaillier. Merci à Violaine Ricourt-Dumas. Et merci à tous les auditeurs de Présence et de Radio La Pourdie d'avoir eu la patience de nous écouter. Merci.
Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Merci à Mgr Marcaillier, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. Retrouvez toutes les informations diocésaines sur le site
www.diocese-bayonne.org.